Nous accueillons nos quatre participants. Donc, la table ronde sera animée par David Torchala, qui vous présentera Monseigneur Bruno Valentin, Isabelle Hervy et Kitry Didier. Donc, je vous souhaite une bonne table ronde et je laisse la parole à nos intervenants.
Merci beaucoup, Cécile. Merci pour cette organisation. Bienvenue à tous pour cette table ronde. Prêtres et laïcs, la collab du futur. Ça en dit long sur les échanges que nous allons avoir ensemble. Et voilà, vraiment, devant leur charge de travail considérable, c'est ça la question que l'on se pose, les prêtres doivent compter sur les laïcs pour animer avec eux la vie d'une paroisse. S'agit-il du partage d'un pouvoir? Voilà, on va s'arrêter un peu sur ce point-là, et c'est vraiment, on s'est invité à nous poser en tout cas cette question. Les prêtres vivent-ils cela comme un manque, une perte de repères? Et puis les laïcs, eux, doivent-ils attendre l'appel pour se lever? Donc c'est ensemble que nous allons parler de ce thème. D'abord, Monseigneur Bruno Valentin, prenez le micro, hop, c'est pour vous, bienvenue. Vous êtes évêque de Carcassonne et Narbonne, voilà. Vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Versailles et puis nommé évêque auxiliaire en 2019. Et puis depuis peu de temps, depuis avril 2023, vous êtes donc maintenant évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne. Merci pour votre présence et puis nous serons heureux de vous entendre sur la manière dont se vit en Église la collaboration entre laïcs et prêtres, les joies, les peines, vous nous direz cela. Je me tourne aussi près de moi vers Kitry Didier. Bonjour Kitry. Vous êtes coach professionnel depuis une dizaine d'années, voilà. Formatrice également en milieu, formatrice et coach. Il y a une différence, formatrice et coach, on a échangé un petit peu avant de démarrer. En milieu ecclésial, ça c'est intéressant. Voilà, vous enseignez aussi la formation humaine dans divers lieux, dont le séminaire de Bayonne. Donc voilà, des lieux d'expérience. Et puis quand on lit votre bio, on peut lire aussi que vous êtes présidente de l'association Les Femmes Ordinaires, dont une action est Mademoiselle Potentielle. Et puis vous avez également, parce que vous faites beaucoup de choses, vous avez également fondé l'École des Vertus à Toulouse et à Bordeaux. Nous serons très attentifs à vos conseils ce matin. Je suis sûr que vous en avez plein à nous délivrer, voilà, et nous donner quelques astuces dans le déploiement des talents de chacun. Isabelle Hervy aussi, bonjour, vous êtes là. Alors là, on a la chance d'avoir la responsable du congrès mission de Toulouse. Merci de prendre le temps avec nous, parce que... Merci vraiment de soutenir et voilà, de prendre du temps, parce que je pense que du temps, vous n'en avez pas beaucoup dans ce week-end. Alors comme Kitry, vous êtes mère de famille, ça c'est une grosse ligne sur le CV, et puis vous travaillez dans la communication et vous avez à cœur particulièrement de travailler pour l'Église. Ça fait un point commun tous les deux. Et vraiment, je crois comprendre que communication et mission, ça résonne en vous. Vous êtes responsable du pôle communication de votre paroisse. Vous avez été membre aussi de l'EAP. Vous avez choisi de porter le congrès mission en 2021. Vous rempilez sur 2023. Merci beaucoup. Alors, avant de démarrer notre échange, et puis en préparant un petit peu ça, je me suis dit qu'il fallait avoir de saintes lectures et puis peut-être quelques repères. Et en fait, je vous propose de s'arrêter très brièvement sur ce que nous enseigne le Concile Vatican II, puis comme nous le rappelle souvent le pape François, redisons-nous que de par leur baptême, les laïcs participent au sacerdoce commun des fidèles et donc à la mission de l'Église, qui est d'annoncer par toute sa vie, par toutes ses paroles, ses actions, la bonne nouvelle du salut. Et je crois que c'est important de dire que la doctrine issue du Concile Vatican II nous a fait passer de la conception de l'Église comme une société hiérarchique, régie exclusivement par le clergé, à un mystère de communion entre tous ses membres, qui implique chaque baptisé à prendre des responsabilités. Alors, Monseigneur Valentin, vous avez le micro et je me permets de vous poser cette première question. cette prise de conscience que les laïcs sont appelés à participer voilà, à l'apostolat aux côtés des prêtres, ça amène forcément les prêtres à faire le deuil hein, de leur omniprésence tout terrain tel qu'on concevait depuis peut-être depuis longtemps. Est-ce que c'est vrai ou pas? Qu'en pensez-vous?
Alors David, puisque nous sommes là pour débattre, permettez-moi de commencer par vous faire remarquer que vous êtes le premier à devoir faire une forme de prise de conscience, dans la mesure où il y avait une contradiction interne dans votre introduction. La référence que vous avez faite au Concile Vatican II en fin d'introduction est venue contredire frontalement la manière dont vous avez introduit le problème au début de votre propos. Voilà. Vous avez commencé en disant « Devant la surcharge de leurs tâches, les prêtres doivent pouvoir compter sur... » Non, ce n'est pas le problème. Ça n'est pas le problème. Le problème, si tant est qu'il s'agisse d'un problème, c'est ce qu'a dit le Concile. Parce que nous sommes baptisés, nous sommes tous en charge de la mission. Peu importe que les prêtres soient trop ou pas assez chargés, peu importe que les prêtres aient tel ou tel domaine de compétence ou d'incompétence, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'Église, c'est d'abord un peuple en charge de prolonger sur toutes les facettes de la planète et à toutes les époques la mission de Jésus lui-même. La mission de Jésus lui-même qui tient en trois mots, prêtre, prophète et roi. Donc c'est un peuple qui est prêtre, prophète et roi. Un peuple dans lequel nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Et cette mission, nous la portons ensemble selon des vocations différenciées. Mais nous la portons d'abord ensemble. Et c'est cet ensemble qui fonde notre échange de ce matin. C'est parce que la mission, elle est portée ensemble ou pas du tout, qu'on ne peut pas penser l'Église sans collaboration prêtre-laïque. Voilà, c'est vraiment important de souligner pour ne pas... Parce que ensuite, ce débat a effectivement de nombreux enjeux fonctionnels, et c'est vrai. Mais il n'est pas fondé sur une question pratico-pratique. Il est fondé sur une question théologique. Ce qui est en jeu dans ce dont nous allons discuter ce matin, c'est la fidélité de l'Église elle-même à ce qu'elle est. C'est la fidélité de nos diocèses à ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser une Église où il n'y ait pas une heureuse collaboration prêtre-laïque. Et si, pour ne pas mobiliser la parole trop, je termine par une illustration toute récente qui, moi, a fait ma joie. J'arrive de Marseille. Le diocèse de Carcassonne et Narbonne est un diocèse bordé par la Méditerranée sur 47 kilomètres. Et à ce titre-là, j'ai participé aux rencontres méditerranéennes que le pape est venu conclure à Marseille. Et ces rencontres, elles avaient le format cette année d'une assemblée de 140 personnes, 70 évêques du bassin méditerranéen et 70 jeunes de la même région. C'était magnifique cette collaboration évêques, jeunes pros et jeunes étudiants. C'était magnifique parce que on a vraiment réalisé ce qu'annonçait le prophète Joël dans sa préfiguration de la Pentecôte. Vos anciens auront des songes et vos jeunes des visions. En croisant nos songes de vieux, d'anciens, d'évêques et les visions qu'ont les jeunes aujourd'hui pour la Méditerranée, on a fait un travail passionnant.
Vous semblez acquiescer, Kitri, quand Monseigneur nous repositionner justement pour cet échange.
Oui, en fait, j'acquiesce parce que c'est vrai que dans la présentation, mais c'est génial, vous nous avez proposé un paradoxe. Moi, j'aime trop les paradoxes parce que je suis coach. En effet, dans un coaching d'équipe, le premier levier, c'est de bien se saisir du but commun. Donc, prêtres et laïcs, nous sommes... On peut prendre cette métaphore hein, qui est un peu limitée, mais imaginons que nous soyons une équipe. Eh bien, il faut, pour avancer ensemble, bien se ressaisir du but commun, hein, que vous avez très bien redit. Donc la mission de l'Église qui est vraiment cette responsabilité qui est commune à tous. Une fois qu'on s'est bien saisi du but commun, on va pouvoir réfléchir à quelle est ma spécificité, justement pour être dans cette communion et cette synergie la plus fluide et dynamique possible. Donc, quelle est ma place, quelle est ma spécificité et comment, du coup, je contribue à ce but commun de ma place. Et le laïc et le prêtre ne vont pas du tout avoir le même chemin pour contribuer au but commun. Et d'ailleurs, c'est un chemin qui n'est pas parallèle. Hein. Il y a énormément de réciprocité dans ce qu'ils s'apportent mutuellement.
Isabelle, alors on va se passer le micro. Et vous, cette introduction, ce paradoxe, qu'est-ce qu'il vous dit ?
Ben, en effet, c'est que je reste aussi convaincue. Alors moi, je suis pas du tout aussi. Je connaissais pas aussi bien le Concile du Vatican II, donc j'ai repotassé un petit peu hier et je me suis dit en effet, c'est complètement écrit que c'est notre appel à tous et qu'il n'y a pas d'opposition. Mais néanmoins, je comprends dans ce que vous avez dit de cette table ronde, c'est que c'est important de se le redire qu'en effet, c'est notre vocation à tous et qu'on est appelé à ça, mais qu'on voit bien dans les faits, dans la réalité de nos églises aussi, que c'est pas si simple que ça, pour sûrement plein de raisons, mais qu'en attendant, la réalité, la mise en œuvre n'est pas évidente. Mais c'est bon, d'abord, en effet, de se redire ce que vous avez dit, Monseigneur, qui doit nous guider. Et voilà. Mais après, voilà, je pense vraiment que c'est. On voit bien, en fait, que ça serait si évident que ça, mais en fait, cette table ronde, elle n'existerait pas déjà.
C'est vrai, vous avez raison. Mais en même temps, Monseigneur, on peut quand même ne pas dire, peut-être, que les prêtres sont aujourd'hui confrontés à une. Peut-être à une certaine, alors du fait des vocations, mais une certaine dépossession quand même de leur. C'est quand même un exercice d'humilité, vous croyez, pour un prêtre de travailler avec des laïcs. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ?
Oui, et réciproquement d'ailleurs. Je crois que c'est la clé d'une bonne relation entre prêtre et laïc, c'est l'humilité pour chacun. Évidemment, quand le pape François, de multiples occasions, a souligné tous les périls du cléricalisme, il mettait un mot sur la vieille tentation d'Adam, la tentation de l'orgueil, tout simplement. Et c'est pas parce que dans le cléricalisme, il y a clercs que cette tentation-là ne concerne que les clercs. Il y a une forme de cléricalisme laïque, évidemment. Donc, bien sûr que l'humilité, c'est la clé. Mais une humilité qui est d'autant plus exigeante que la mission n'appartient qu'au Christ. L'Église n'appartient qu'au Christ, et pas plus au titre de son baptême que de son ordination, on ne peut prétendre à un quelconque droit de propriété sur l'Église. Toujours se rappeler que peuple de Dieu veut dire peuple propriété de Dieu, et non pas peuple propriétaire de Dieu. Donc nous avons tous, sans cesse, à faire ce travail de dépouillement, de dépossession des charges mêmes qui nous sont confiées, quelles qu'elles soient. Que ce soit ma charge d'évêque, que ce soit une charge de curé, que ce soit une charge d'animateur en aumônerie ou en catéchèse, dès lors qu'on commence à se l'accaparer, à s'en sentir propriétaire, les choses partent de travers.
Et ça, c'est le rôle de l'évêque d'avoir cette, autant que possible, cette vigilance en visitant les communautés, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite ?
L'évêque, il exerce d'abord ce rôle-là à travers sa responsabilité de confier les missions. Voilà. Personne dans un diocèse n'exerce quelque charge que ce soit de sa propre initiative. Et il l'exerce parce qu'il a reçu la mission d'un autre. Et à l'échelle du diocèse, cet autre, c'est l'évêque, qui lui-même a reçu sa mission d'un autre. Moi, je n'ai aucune raison humaine d'être à Carcassonne-Narbonne, si ce n'est la décision du pape François, vous voyez. Et c'est ce système de mission reçue d'un autre qui nous garde en sécurité de la tentation d'accaparement, et il faut quand même beaucoup le redire, qui fait une des richesses de notre spécificité catholique. Parce que la première différence essentielle entre une communauté protestante et la paroisse catholique d'à côté, c'est que le pasteur de la communauté protestante est sélectionné, choisi et retenu par le conseil presbytéral. Le curé, il n'est pas choisi par le conseil pastoral de la paroisse. Il est envoyé du dehors par l'évêque. Voilà. Et donc ça fait une différence fondamentale qui fait notre ADN catholique. C'est que tous, si nous sommes là où nous sommes, c'est parce qu'un autre nous a envoyés et non pas parce que ceux avec qui nous travaillons nous ont choisis.
C'est très juste.
Alors c'est une spécificité qui en même temps peut nous mettre dans une confusion. C'est-à-dire que le laïc n'a pas besoin de recevoir, par exemple, la mission de son curé pour exercer une initiative apostolique, missionnaire. Donc, cette mission reçue, en fait, elle est d'un côté, elle est transmise par la hiérarchie, mais en ce qui concerne le laïc, en fait, elle est reçue dans son baptême. Et ce qui se passe là dans notre sujet, pourquoi cette collaboration n'est pas parfois fluide ? Parce que le laïc attend de son curé de recevoir la mission de faire quelque chose.
Du point de vue apostolique. On peut comprendre aussi qu'un laïc ne va pas comme ça arriver spontanément. J'ai une super idée missionnaire.
En théorie, tout laïc, de par son baptême, a reçu la mission d'être apostolique, d'être apôtre. Donc peut exercer le discernement de l'Esprit Saint, bien sûr en fidélité avec la doctrine de l'Église, en se nourrissant des sacrements, mais peut exercer des initiatives. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Un des premiers groupes que j'ai lancé de femmes, donc j'étais jeune maman, coincée à la maison, et puis vraiment, j'arrivais pas à m'organiser pour aller à la paroisse chercher de la formation. Donc je me suis dit, je vais inviter mes amis à la maison, et puis on va lire ensemble la parole de Dieu, et puis on va prier ensemble, et puis on va échanger ensemble, et avoir cette petite fraternité très simple de quartier, avec des femmes de tout style, et d'ailleurs de toutes... Pas de toute religion, mais pour certaines athées. Et puis je vais voir mon curé, d'ailleurs c'était pas mon curé à l'époque, c'était mon vicaire, et je lui explique mon initiative, et je lui dis, est-ce que vous pouvez me donner votre bénédiction ? Et puis il me regarde, il me dit, non mais Kitri, t'as pas besoin de ma bénédiction pour... aujourd'hui il me tutoie, t'as pas besoin de ma bénédiction pour avoir ce type d'initiative. Et donc c'est par ton baptême que si tu discernes ce désir, cet appel à former ce petit groupe dans l'amitié très simple, si tu discernes cet appel, que tu es accompagné, que tu es fidèle à l'Église, mais vas-y, sans ma bénédiction.
Oui, vous dites que tu es accompagné, que tu es fidèle à l'Église, ça veut quand même dire qu'il y a quand même du lien avec un prêtre. Jusqu'où, c'est un peu la question que je voudrais poser, jusqu'où va la liberté du laïc, puisque quelque part, il engage l'Église aussi.
Alors, je crois qu'il faut être un petit peu plus précis que ce que dit Kitri, et en revenir là encore aux enseignements du Concile Vatican II, qui dit bien que la vocation propre du laïc, c'est de porter l'Évangile dans le monde, par sa vie professionnelle, par sa vie familiale, par ses relations amicales. Et au fond, l'exemple que donne Kitri de sa propre initiative participe de cette sphère-là. C'est au titre des relations de voisinage qu'elle a pris l'initiative d'inviter des gens à partager la parole. Et comme elle l'a dit très justement, c'est fondé sur la légitime initiative de son baptême. Il en va différemment pour une mission d'accompagnateur catéchuménat, par exemple. C'est pas parce qu'on se sent le goût et même le charisme d'accompagner des adultes au baptême qu'on peut en prendre l'initiative sans une mission reçue. Parce que pour ce qui est de la mission pastorale, conduite au nom de l'Église, c'est bien le prêtre qui a la charge d'organiser la mission à l'intérieur de sa paroisse. Donc on en revient toujours aux missions spécifiques de chacun, aux vocations spécifiques de chacun dans une mission commune. Et le Concile insiste beaucoup, et c'est un des enjeux de la question d'ailleurs du cléricalisme, pour que on ne détourne pas les laïcs du premier lieu de mission qui est le leur, leur métier. La vie associative, la vie politique, c'est là où les laïcs ont non seulement le droit, mais le devoir d'agir sans attendre que les prêtres leur disent ce qu'ils ont à faire. Vous voyez ? C'est là leur champ de mission propre.
Isabelle, pensez-vous vraiment que le champ pour les laïcs est tout à fait ouvert et tout à fait libre ? Votre expérience ?
Moi, mon champ de laïc, il est en effet assez paroissial, en fait. Mais comme disait Monseigneur Valentin, en tout cas, moi, je me suis toujours dit que... En tout cas, pour moi, je suis dans une paroisse où souvent on dit que c'est la paroisse des possibles, mais qu'en effet, Après, le curé peut dire oui ou non, Kitri disait on ne va pas lancer l'initiative. En fait, si on peut arriver en disant bah, voilà ce que j'ai aussi reçu dans la prière, mon père, je vous propose ça. Et après, en effet, c'est lui qui a la charge pastorale. Et si jamais ça ne correspond pas à sa vision pastorale, en fait, à un moment, en effet, il a le droit de dire super, mais peut-être pas comme ça, ou de réorienter. Mais donc voilà, donc, je pense qu'en effet, c'est la mission du curé. Et c'est, pour le coup, ce n'est pas la nôtre. Mais ça n'empêche qu'on a le droit de se lever et d'aller dire, bah, voilà, franchement, et de provoquer des conversations, parce que, voilà, peut-être qu'on propose une idée, ça passe pas, mais en fait, on a besoin d'échanger encore, parce qu'il y a aussi ce que le Seigneur vient nous dire personnellement aussi, en fait, il ne parle pas qu'au curé, dans ce qui peut être proposé dans une paroisse. Après, je repensais à ce que disait Monseigneur de Kerimel pendant l'assemblée. On a une assemblée diocésaine à Toulouse, post-synodale. Et il nous disait en fait dans la préparation de cette assemblée diocésaine de dire, bah, et c'est quelque chose, je trouve, souvent à se redire en disant, bah, oui. Le problème, c'est qu'en fait, dans l'Église, quand on est laïque, on a aussi très envie de dire, bah, en fait, j'ai donné mon idée, on m'a demandé mon avis, and so what? Et qu'est-ce que vous faites de ça? Et j'ai pas été écoutée. Et c'est vrai que de se dire, bah, finalement, tout ce que je viens donner, en fait, c'est donner mes idées que je viens de partager, ma proposition que j'ai faite à mon curé, bah, en fait, c'est donner, ça ne m'appartient plus. Et en fait, encore une fois, on n'est pas en démocratie dans l'Église. C'est une institution divino-humaine, quoi. Donc, bah, en fait, c'est l'Esprit Saint derrière aussi qui vient épurer aussi chacune de nos idées, voir savoir si bah, ce que dit l'Esprit aux Églises. Voilà, on sait bien que si ça parle aussi à plusieurs personnes, ça revient par différents endroits. Bah, c'est aussi la manière dont l'Esprit Saint vient nous dire, bah, oui, c'est peut-être, voilà, on est à l'écoute de ce que l'Esprit dit, mais voilà, donc je pense que c'est pas, on peut pas juste être avec ce qu'on veut faire. Mais par contre, c'est vrai que j'entends, moi, des frustrations que je n'ai pas dans ma paroisse, mais de dire que des laïcs qui peuvent avoir des grands désirs missionnaires, des désirs aussi peut-être de transformation dans leur paroisse, avec un plein de feu pour proposer des choses, et quand on a toujours des refus, parce qu'encore une fois, c'est le curé qui, en effet, qui dirige sa paroisse, quand on a plusieurs noms, bah c'est vrai que de temps en temps, ça aussi, ça démobilise des laïcs qui ont ce désir-là de servir dans son Église, de s'en dire justement responsable, parce qu'on est tous responsables, en effet, au titre de notre baptême de l'Église. Et voilà, donc c'est juste, bah, de temps en temps, c'est vrai que ça peut être plus difficile pour certains laïcs, parce que ne pas sentir comment trouver leur place là-dedans.
Je crois qu'il faut interroger de près ce sentiment de frustration que vous évoquez, avec justesse, parce que il peut avoir deux origines. Celle que vous avez dit, c'est-à-dire avoir du mal à accepter que j'ai donné mon idée et que parce que c'est un don, je ne suis pas propriétaire de ce qu'elle devient. Mais cette frustration, elle peut aussi venir de situations où, objectivement, celui qui a la charge du discernement, le curé, le prêtre, verrouille les choses de telle manière que il ne donne tout simplement pas droit d'accès à tout ce qui n'est pas lui. Hein, je crois que nous les prêtres, nous les évêques, on a toujours à se rappeler cette mise en garde de saint Paul, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et c'est très important que les prêtres acceptent de se laisser bousculer par des idées qui ne viennent pas d'eux, que les prêtres, qu'un curé de paroisse par exemple, dans son discernement sur ce qu'il va mettre dans sa feuille paroissiale ou dans ce qu'il ne va pas mettre, accepte qu'il ait cette approche polyphonique de sa communauté et qu'il n'ait pas simplement une maîtrise univoque de la ligne pastorale en fonction de ses propres dons et de sa propre vision. Parce que y a la frustration dont vous avez parlé est parfois une contestation légitime d'une forme de verrouillage.
Ça me permet, en même temps, merci, hein, vous participez, donc les questions m'arrivent là, c'est assez formidable. Alors vous remarquerez que parfois vos questions, les réponses se donnent en même temps, mais je regarde, et quelque part on peut quand même s'interroger sur la formation aussi des prêtres. Il faut peut-être être formé, vous qui avez l'habitude de ça, peut-être qu'il faut aussi aider les prêtres à pouvoir être plus dans l'écoute, accepter aussi la manière de peut-être réangler une vision pastorale qui nous paraissait tout à fait juste au départ pour une paroisse. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de progrès dans la formation des... Enfin, progrès. Je pense que l'Église s'est sans cesse renouvelée et sans cesse améliorée dans la formation des prêtres. Et cette dynamique est toujours actuelle. Et vraiment, moi, je le vois dans les séminaires, il y a un travail... avec cette nouvelle ratio et qui est appliquée aussi dans notre pays, un travail vraiment de questionnement sans cesse pour apporter aux prêtres les meilleurs moyens de formation. Il y a quand même quelque chose qui manque, enfin il y en a plusieurs, mais il y a quelque chose qui manque que j'ai vu assez récemment, que j'ai remarqué assez récemment dans les coachings que j'ai pu avoir de curés ou même en discutant avec les séminaristes, c'est dans l'accompagnement spirituel, la formation à l'accompagnement spirituel. En fait, quand un prêtre accompagne spirituellement un laïc, il l'accompagne beaucoup sur sa relation à Dieu, ce qui est normal, c'est le sujet, hein. Mais il l'accompagne assez peu sur ses apostolats, c'est-à-dire sur ses relations et sur son engagement apostolique dans le monde. Donc il y a assez peu de questions qui lui sont posées, alors que prière sans apostolat, apostolat sans prière, c'est impossible. En fait, les deux sont tellement liés, apostolat et prière, que l'un sans l'autre, ça ne veut rien dire, en fait. Donc c'est vrai que moi, quand le sujet est abordé, je dis, mais est-ce qu'à un moment ou un autre, parce que moi, je reçois ça dans mon accompagnement, vous posez la question, comment tu grandis dans cette amitié, comment tu présentes Jésus, comment tu parles du Seigneur dans ton travail, comment... En fait, ce souci de se pencher sur l'apostolat de chaque laïc. Donc là, je crois qu'en effet, il y a un grand champ à proposer dans la formation.
Monseigneur Valentin, est-ce qu'il existe un service diocésain pour l'apostolat des laïcs ? Enfin, la question, est-ce que les diocèses prennent ce sujet
Alors, les structures diocésaines, elles sont très variables d'un diocèse à l'autre. Hein. D'abord, selon la réalité et la taille de nos diocèses, qui ne cessent de s'approfondir en termes de contraste. Là, il faut être très conscient que les différentiels entre les diocèses de France s'approfondissent énormément. Il y a des diocèses qui deviennent extrêmement pauvres en moyens, jusqu'à s'interroger d'ailleurs sur leur viabilité aujourd'hui, et d'autres qui ont beaucoup plus de ressources. Donc je pense que la question aujourd'hui ne se pose plus tant au niveau diocésain qu'au niveau provincial. C'est sans doute à cette échelle-là qu'il faut porter le souci de la formation, qu'il faut porter le souci de l'accompagnement des laïcs dans leur mission. Je ne suis pas certain que la plupart des diocèses aient les moyens de porter cette question de manière sérieuse uniquement à l'échelle locale.
Mais néanmoins, on peut trouver certainement des ressources ailleurs.
Bien sûr, et ici chez nous, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ressources de formation qui gravitent autour de l'Institut catholique de Toulouse et qui sont accessibles à toute la région jusqu'à chez moi, même si moi je suis de la province de Montpellier. Et puis il y a beaucoup de propositions de relecture de mission, de retraite, bien sûr. C'est essentiel que ça existe.
Vous rejoignez Kitri dans ce qu'elle vient de dire, donc c'est cette implication effectivement dans l'accompagnement spirituel des personnes, et puis peut-être cette pauvreté sur l'accompagnement dans l'apostolat.
Ce que dit Kitri me permet d'abord de souligner que l'accompagnement spirituel n'est pas un charisme sacerdotal. Tous les prêtres ne sont pas faits pour être accompagnateurs spirituels. Et les prêtres n'ont pas le monopole d'accompagnement spirituel. Une religieuse peut faire de l'accompagnement spirituel, un laïc peut faire de l'accompagnement spirituel. C'est une affaire de formation et de mission reçue. Donc voilà typiquement un exemple de la façon dont il faut peut-être revoir les idées reçues sur la collaboration prêtre-laïc. Il n'y a pas de caractère nécessairement sacerdotal à l'accompagnement spirituel, parce qu'il ne faut pas confondre le ministère d'accompagnement spirituel du ministère sacramentel de la confession. Il est même bon de les distinguer. Bon. Donc ça, c'est important, précisément, puisqu'on est sur ce terrain-là, de dire voilà un exemple concret où on peut distribuer les cartes autrement que ce qui nous apparaît comme une évidence. Après, ce que dit Guitry est important, c'est vrai, c'est-à-dire que l'accompagnement spirituel, qui à mon avis est une nécessité pour tous ceux qui sont un peu activement engagés dans la mission de l'Église, doit balayer la totalité du spectre et ne pas se concentrer uniquement sur la dimension verticale de ma relation avec Dieu. C'est tout à fait essentiel.
Isabelle, naturellement, vous êtes un exemple. Vous êtes laïque, vous prenez l'organisation du congrès mission. Bon, vous n'avez pas... De fait, vous avez collaboré avec les prêtres de Toulouse. Est-ce qu'on vous a laissé le champ libre? Témoignez-nous peut-être là sur cet exemple-là qui nous réunit aujourd'hui.
Alors, je suis pas bien sûre d'être un exemple, mais
pour ce matin, l'exemple est très bien.
Mais la responsabilité du congrès mission. Alors c'est vrai que je pense que c'est. J'y ai réfléchi en fait de savoir justement si cette responsabilité du congrès mission. Était dans cette responsabilité, dans cette collaboration prêtre laïque. Et j'avoue que j'ai pas du tout une réponse bien tranchée là-dessus, parce qu'en effet, le congrès mission, c'est une initiative de laïcs, portée par des laïcs. Non pas qu'on mette du tout l'Église de côté, mais je me suis dit, en effet, jusqu'où on va, où est-ce qu'elle se place réellement cette responsabilité, cette co-responsabilité dans cet événement-là. Donc je ne suis pas bien sûre. Je sais que bien entendu, en tout cas, pour que ça se passe à Toulouse, parce que le congrès mission, en effet, c'est quelque chose que quelques laïcs ont reçu, porté dans la prière et qu'ils ont reçu il y a quelques années et qu'ils ont mis en place. Voilà, donc moi, en effet, en tout cas pour que ça se passe à Toulouse, bien entendu, c'est avec l'accord de notre archevêque. Pour être sûr qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que Toulouse accueille le congrès mission, parce qu'en fait, c'est pas le diocèse qui porte le congrès mission, ce sont que des laïcs.
Alors moi, je trouve que justement, le congrès mission, c'est vraiment l'exemple type de la collaboration prêtre-laïque par rapport à ce but commun qui est la mission de l'Église. En fait, c'est là où on a un problème à chaque fois de dans quel cadre de pensée, dans quel cadre on se place. Est-ce qu'on se place dans, je sais pas, le prolongement du sacerdoce ministériel par les laïcs, je sais pas, comme si les laïcs étaient des bras des prêtres? Où est-ce qu'on se place dans la mission commune des prêtres et des laïcs, chacun avec leur spécificité, et du coup cette communion entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles. Et pour moi, le congrès mission, c'est exactement au bon endroit. C'est-à-dire que ces laïcs ont reçu cet appel, se sont mis ensemble, ont discerné ensemble, se sont entourés de bons conseils. Ils ont tous une vie chrétienne riche, engagée depuis longtemps. Enfin, c'est des gens fidèles à l'Église, qui veulent servir l'Église. Et de leur propre initiative, ils ont lancé ce congrès mission et ils se sont entourés dans une fidélité très grande, de bons conseils et puis de d'acteurs.
Je ne dirais pas le contraire, Kitri, mais je dis juste en fait que dans la manière finalement, cette année, en fait, la manière dont le congrès mission aussi a été construit, que en effet, dans notre équipe, c'est vrai. On a un diacre, si c'est vrai. Mais en effet, c'est pas. En tout cas, on n'est pas représentatif non plus de l'Église. On l'a pas co-construit, en tout cas, dans toute cette programmation, dans toute la manière dont on a avancé. En effet, dans cette logique d'être aussi avec des prêtres, aussi d'être avec des religieux, aussi avec des diacres. Moi, c'était plus dans ce sens-là. Pour autant, en effet, on en revient toujours. C'est heureusement qu'il y a des initiatives, quoi. Gloire à Dieu. Moi, je souhaiterais trop bien que cette équipe de Raphaël Cornu-Ténard et compagnie, soit allée présenter, en effet, ce qui portait dans le cœur auprès de l'archevêque de Paris il y a des années et que ce congrès mission ait vu le jour. C'est une belle chose. C'est tout ça bon. En effet, on n'est pas dans le cadre d'une paroisse, mais pour autant, en effet, il y a quand même une validation au départ d'essayer d'aller voir avec l'Église, l'Église avec un grand E, savoir aussi que ça n'aille pas à contre-sens ou que ça ne soit pas contre-productif. Mais voilà.
Je, peux donner aussi un autre exemple dans ce thème. Je suis coach à Talenteo. Donc Talenteo, c'est une association coach chrétien qui est au service de l'Église. Et quand les fondateurs, en fait, ont vraiment, il y a eu une véritable dynamique qui s'est mise en œuvre, ils sont allés à Rome pour demander un peu le stempel. Voilà, le stempel de l'Église, c'est bon, allez-y, vous êtes dans les clous. Et en fait, les cardinaux qu'ils ont rencontrés leur ont dit, on va voir déjà, voilà, la prudence de l'Église, mais allez-y, 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 continuez, continuez. Donc aujourd'hui, c'est assez magnifique de voir que ces laïcs, avec leurs meilleures compétences professionnelles, sont au service de l'Église, voilà, et de leur propre initiative au départ, bien conseillés certes. Voilà.
Moi, ce que je vous propose maintenant en deuxième partie, c'est qu'il y a plein de questions qui m'arrivent beaucoup. Et on pourrait se faire cet exercice, on lit les questions et puis on y répond. Hein, d'accord ? Et comme ça, on passe d'un thème à un autre. Alors, je vais essayer de tout lire, mais y a vraiment, il y a beaucoup de choses. Voilà une question. Il faut aussi que les laïcs, comme les prêtres, se forment. Comment faire pour, comme le disait Mgr Valentin, faire que le laïc soit à sa place dans la joie sans être frustré de ne pas avoir la place du prêtre?
Mais je crois que la réponse est dans la question. Il y a d'abord un enjeu de formation. Moi, j'ai beaucoup souffert au fil de mes missions successives de constater le paradoxe qu'il y a entre la demande théorique de formation et la réponse aux propositions qu'on fait. Quand vous demandez aux gens « voulez-vous des formations ?», la réponse est « oui ». Et puis quand on les monte, il n'y a personne qui vient. J'ai vu ça X fois, comme curé de paroisse, comme responsable de la formation des laïcs dans le diocèse de Versailles. Donc j'aimerais que les laïcs prennent vraiment conscience de la nécessité vitale pour eux-mêmes de consentir à cet effort onéreux qu'est un parcours de formation dans la durée. J'aimerais que les prêtres en paroisse réussissent à résister à la tentation de manger leur blé en herbe en disant j'ai sous la main quelqu'un de bien, je ne vais pas en plus le perdre en l'envoyant se former. Je vais l'utiliser à faire des trucs dans la paroisse. Et quand il aura fini, éventuellement il fera de la formation. C'est un raisonnement à court terme qui est mortifère pour nos communautés. Parce qu'on use les gens, on use les gens, et d'ailleurs souvent on les use aussi au point de vue spirituel et psychologique en leur demandant de porter des charges pour lesquelles on ne les a pas suffisamment formés. Il est essentiel qu'un curé ait l'assaise de se dire telle personne elle est super et donc je ne lui demande rien pendant 3 ans. Parce que pendant 3 ans je vais lui demander de se former. C'est essentiel cette question.
Et en même temps, parce que je regarde et donc je rassemble, quelque part, on propose beaucoup de formations, formations bibliques, c'est super, formations spirituelles profondes, mais est-ce qu'on ne devrait pas proposer davantage de formations concrètes? Est-ce qu'il y a la formation du super membre des EAP? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas, pour être vraiment dans le concret, vous êtes nombreux à poser cette question-là. Oui, mais concrètement, que faire?
Alors, je ne sais pas si je vais répondre bien à la question, du coup, parce que pour moi, la réponse est venue trop vite, pardon. Je crois qu'en effet, les laïcs ont besoin de formations concrètes, mais d'abord de formations concrètes, pas sur un sujet pour être des bons agents pastoraux, ouais. Mais pour être des bons chrétiens. C'est-à-dire comment concrètement je mets l'évangile en pratique dans ma vie ordinaire, dans mon travail, avec mon époux, avec ma famille, avec... Moi, j'ai un petit exemple à donner comme ça pour l'école des vertus. Vous avez dit en introduction que j'étais la fondatrice. En fait, absolument pas. Mais je vais rectifier un tout petit peu. En fait, il y a eu un groupe à Toulouse, nombreux, qui a suivi l'école de théologie pendant 3 ans. Donc, l'école de théologie à Toulouse, c'est vraiment une formation extrêmement complète, riche, avec un rythme, un très gros rythme. Les personnes sont très, très investies. Et donc, vraiment, leur intelligence était vraiment gonflée à bloc, éblouie par toute cette vérité sur laquelle ils avaient été formés, la doctrine de l'Église. Et au bout de 3 ans, ils se sont dit, on ne peut pas s'arrêter là, mais on veut mettre en pratique vraiment très basiquement tout ce qu'on a appris. Et lors, providentiellement, un dîner, en fait, je rencontre une des personnes qui avait suivi cette formation et qui me dit qu'Itri, il faut absolument mettre en œuvre une formation concrète, donc d'application. Une école d'application, un peu comme dans l'armée, vous savez, ils ont des écoles d'application, ou en sortant polytechnique, il y a une école d'application. Et donc, c'est ce groupe-là qui a fait cette demande, où est-ce qu'on peut trouver cette formation concrète. En fait, on a fait un petit état des lieux, elle n'existait pas véritablement. Donc, on a monté ensemble l'école des vertus. Et la première année de l'école des vertus, comme toute chose nouvelle, les premiers congrès missions, là, c'est badaboum, 47 exactement, personnes qui se sont inscrites. Et cette école des vertus, c'était beaucoup plus light, beaucoup plus... Mais c'était mettre en œuvre ma vie... En fait, ma vie intérieure est déjà développée. Mon intelligence est déjà vraiment en cours de formation. Mais comment faire descendre tout ce que je vois, tout ce qui m'attire dans ma vie chrétienne concrètement?
Je lis les questions et puis les thèmes viennent comme ça. Plus que de pouvoir, ne pourrait-on pas parler de difficultés dues au manque de formation au travail des équipes de laïcs? Pardon, on vient déjà, ça bouge en même temps. C'est là, on vient déjà de l'évoquer. Qui fixe le but commun de cette collaboration prêtre-laïque? Et qu'en est-il quand la vision entre prêtre et laïc n'est pas la même? Il y a aussi parfois des divergences.
Ça, c'est une belle question. Parce que
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on quitte le bateau? On quitte le navire? On va voir dans une autre paroisse si c'est plus...
Qui fixe la vision commune? C'est Jésus. Voilà. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. La feuille de route, on n'a pas à la réinventer. Je crois qu'il faut toujours revenir à cette conviction fondamentale que l'Église, on n'a pas à l'inventer. On a à la recevoir comme Dieu la voit. L'Église n'est pas la somme de nos talents, de nos capacités professionnelles. En mettant ensemble tout ce qu'on sait faire, on fera la plus belle Église possible. Non. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et nous avons à nous mettre sans cesse à l'écoute de ce que Jésus veut pour son Église. Alors, du coup, comment est-ce qu'on discerne précisément dans quel sens concret cet appel intemporel à être celle de la terre et lumière du monde va se traduire pour ma paroisse à moi? C'est tout un travail de conspiration entre prêtres et laïcs, c'est-à-dire on essaye de se laisser ensemble guider par l'Esprit Saint dans un travail d'écoute, dans un travail de prière, dans un travail de discernement. C'est tout l'enjeu de ce qui va se passer à Rome dans le mois qui s'ouvre. C'est tout l'enjeu du synode qui commence à partir de ce soir. Et c'est probablement un des fruits qui restera durablement du pontificat de François que d'avoir beaucoup poussé cette culture du discernement dans l'Église, d'avoir beaucoup poussé cette culture de la synodalité qui consiste à écouter ensemble là où l'Esprit nous conduit. Mais fondamentalement, c'est dans cette posture d'écoute de l'Esprit que se trouve la possibilité pour une paroisse très concrètement de bâtir son projet pastoral pour l'année qui vient. Et non pas, vous voyez, dans une logique de bras de fer entre les sensibilités en présence. Ça, c'est sans issue.
Alors, comme ça, en effet, pour vous joindre, j'ai fait partie de l'équipe vision de ma paroisse, c'est-à-dire un groupe de plusieurs personnes qui avaient été appelées par le curé pour réfléchir ensemble à la vision. C'est après une session de pasteur selon mon cœur où nous avions participé avec, il avait appelé plusieurs laïcs, plein de laïcs, à venir vivre ce dernier week-end de pasteur selon mon cœur. Et je vois vraiment, en effet, moi je pense que c'était ma première expérience réellement dans cette équipe vision, de voir la manière dont on arrivait ensemble à être conduit par l'Esprit Saint. Et où il n'y avait pas en effet la voix du prêtre et la voix des laïcs là-dedans. C'était vraiment en effet complètement conduit par l'Esprit Saint et tous au même niveau dans notre position en effet de baptisés. Et ça, j'ai trouvé ça en effet extrêmement riche. Et voilà, et la vision de notre paroisse aujourd'hui, qui donne cette ligne directrice, vraiment, elle a été construite par prêtres et laïcs quoi, curé et laïc, avec des membres de l'EAP, des personnes pas de l'EAP, le curé. Et je pense vraiment qu'en effet, ça a été un exercice d'hostilité à l'Esprit-Saint. Et on voit que ça a été doux. On voit, il y a des moments vraiment où ça, on n'était pas tous d'accord. Mais en fait, on est tous arrivés à une unité à la fin, mais parce que voilà, il y avait vraiment cette docilité à l'Esprit-Saint qui, d'accepter que c'est lui qui nous conduit.
Alors dans ces équipes de discernement de la vision pastorale, c'est vrai que moi j'ai pas mal travaillé pour des paroisses. En fait, le rôle spécifique des laïcs, c'est vraiment peut-être d'apporter tous les besoins de leurs proches, tous les besoins du monde. En fait, il y a comme un processus émergent qui vient des laïcs, c'est-à-dire de faire remonter tous les besoins pour que l'Église, avec tout son enseignement, soit vraiment au service de ce peuple de Dieu en marche. Je pense à la Vierge Marie là, qui est devant nous, qui est vraiment le modèle le plus parfait du laïc. Hein. Le jour des noces de Cana, elle dit « ils n'ont plus de vin ». En fait, c'est elle qui voit le besoin. Et je pense qu'on a vraiment cette imprégnation des besoins de ceux qui nous entourent à faire remonter pour justement alimenter le discernement de la vision et pour qu'elle aille dans le bon sens.
Une question, pourquoi ? Alors, une question, un constat, mais ça fait écho aussi certainement au synode qui s'ouvre aussi ce soir. Pourquoi c'est le prêtre qui a la décision finale ? Est-ce que les laïcs ne peuvent pas parfois avoir un peu plus de discernement ? Merci pour celui qui a posé la question, il est forcément là.
Alors, quand j'ai été ordonné évêque il y a bientôt 5 ans, j'ai un grand ami béninois, un ami prêtre, qui m'a offert comme cadeau d'ordination une petite cuillère. Voilà, une petite cuillère. En me disant, garde-la dans ta poche ou sur ton bureau pour qu'elle te rappelle toujours que c'est pas parce que tu es ordonné évêque que tu aurais l'Esprit-Saint au tonneau et que tu serais chargé de le distribuer aux autres à la petite cuillère. Voilà. Et moi, j'ai gardé cette petite cuillère dans mon bureau parce que ce rappel qui va dans le sens de la question qui nous est posée est fondamental. Oui, l'Esprit-Saint est donné à tout le monde, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, avec la même surabondance. Il n'y a pas ceux qui l'ont plus et ceux qui l'ont moins. Donc oui, il faut véritablement entrer dans ce jeu loyal, libre, docile, d'écoute de ce que l'Esprit-Saint dit à l'autre et me dit par l'autre, quel que soit notre état de vie. Après, il faut ouvrir la lettre aux Corinthiens et lire la manière dont saint Paul lui-même explique assez clairement comment s'organise ce jeu des charismes, en disant que la spécificité de la mission apostolique, c'est le discernement des charismes, précisément. C'est comme ça que Dieu a organisé son Église. Et que donc, c'est le rôle du ministre ordonné, d'abord de l'évêque, et par participation au sacerdoce de l'évêque, du prêtre, que d'être ce chef d'orchestre de la symphonie des charismes. C'est son propre charisme. Voilà. C'est sa propre mission dans le corps de l'Église.
Mais Monseigneur, quelque part, vous ne répondez pas à la question. Alors, est-ce qu'il faut... Non, est-ce qu'il y a la tranchée, mais c'est le but aussi de... finalement, c'est quand même toujours le prêtre qui décide à la fin.
Absolument. Parce que la vocation apostolique, c'est le discernement des charismes. C'est son rôle dans l'Église. On a parlé à la fois d'être capable d'envisager et d'embrasser cette mission commune dans la compréhension du rôle propre de chacun. Et dans la vision catholique des choses, le ministre ordonné, prêtre, évêque, a ce rôle du discernement ultime des charismes. Oui.
C'est vrai qu'il y a aussi... Ah pardon, Kitri.
Alors, peut-être je nuancerai un petit peu, parce que bien sûr, ça dépend de sur quelle matière on est en train de décider. Par exemple, cette année, avec mon mari, on est famille de frates à la paroisse étudiante. Donc tous les dimanches soirs, on est ici dans cette église. Il y a 500, 600 étudiants. C'est absolument magnifique. Donc on est au service de la paroisse étudiante. Et dans le cadre de nos discussions, on a un groupe d'aumôniers où on discute, on discerne. Là, bien sûr, comme il y a une participation à la gouvernance de cette paroisse par délégation, là, bien sûr, il y a le curé décide à la fin. Et d'ailleurs, c'est très beau. Cette hiérarchie, c'est un véritable service. Hein. Et il prend des coups, d'ailleurs, après, si parfois. Voilà. En revanche, sur tout ce qui est tout ce qui relève du temporel, hein, je veux bien refaire la nuance. Par exemple, le curé ne décide pas, avec mon mari par exemple, on va discerner ben, qu'est-ce qui est prioritaire, est-ce que là c'est la mission des étudiants, est-ce que c'est notre couple, est-ce que c'est notre travail, est-ce que c'est... Et là il y a beaucoup de sujets très temporels où on vous voit, on se met au service de Dieu. Et là, il y a, bien sûr, il y a quelque chose de très autonome qui se produit de par notre baptême. Donc le curé qui décide à la fin, c'est toujours dans ce cadre de pensée paroissiale en fait.
Mais non, mais je me disais juste, en effet, quand on est dans une équipe EAP, finalement, en fait, c'est une aide à la gouvernance, mais qu'en effet, en fait, on aide le curé à réfléchir, à lui donner des billes, peut-être on espère, mais comme en tout temps, chacun d'essayer de faire bouger aussi des lignes intérieures. Mais voilà, en effet, ce n'est pas la gouvernance, on ne gouverne pas une paroisse, en effet ça reste la responsabilité du curé. Donc, mais je me dis, quand je reprenais l'exemple de l'équipe Vision tout à l'heure, mais je me dis, mais c'est tellement ça, et en fait en parlant là, je me disais, mais en fait la source elle est tellement dans l'échange, en fait dans réussir à se parler, à se dire les choses, à pousser des conversations, parce qu'en fait c'est tellement plus enrichissant, on arrive tellement plus à aussi, le but n'est pas de faire passer une idée ou un désir, mais en fait de dire pourquoi on le porte et qu'on est, voilà, en fait quand on discute plusieurs fois d'un sujet avec quelqu'un, forcément un, ça peut nous faire bouger, deux, ça peut le faire bouger, et puis encore une fois, si c'est ce que l'Esprit Saint aussi veut parler, parle en effet à travers l'autre, à travers moi, il y a peut-être quelque chose qui se passe aussi dans ce moment-là, mais peut-être que de temps en temps, en fait, il n'y a pas cette notion d'échange vraiment et d'échange fraternel, peut être une source aussi de temps en temps de bah, beaucoup plus d'apaisement et surtout aussi de, bah, finalement de co-construction et de co-responsabilité. Parlons-nous.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est ce que je lis et j'essaie de résumer parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, mais c'est, on ne peut pas non plus mettre le voile sur des frustrations, tant de la part des laïcs aussi que des prêtres, il y a quand même des incompréhensions. Quand ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? On change de paroisse? Bon, pour le curé, c'est plus compliqué de changer de paroisse, mais quand ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Isabelle a envie de...
Non, mais en fait, je me disais, en fait, ce que disait Monseigneur Valentin tout à l'heure est assez juste, et je pense que j'ai pas la clé hein, du tout, mais c'est des frustrations, je sais que souvent il y en a quand on commence à se sentir propriétaire de sa mission. Et je pense qu'il y a une clé souvent là, et que je pense qu'il y a une part de relecture. Moi, je rêverais en fait que dans toutes nos paroisses, on ait, en tant que serviteur, en fait, une vraie relecture, mais qu'on nous donne comme un exercice à faire et qu'on le fasse, mais pour en effet de savoir mais pourquoi on sert, qui on sert, comment je sers, parce que voilà, je pense que beaucoup de frustrations sont aussi souvent dues ce sentiment d'être propriétaire de notre mission et donc de notre manière de voir les choses et qu'on, voilà, c'est plus... Pour moi, c'est plus l'Église à partir du moment où et c'est dur, hein, ça demande beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de combats, de se dire ce n'est pas ma mission. Mais voilà, donc je me disais juste ça, je pensais à ça.
Bien sûr que on connaît tous quantité de situations où la situation se grippe. Et il ne faut pas rester dans un tête-à-tête dans ces moments-là. Il ne faut pas rester dans une espèce de blocage en face à face. Il faut faire appel le plus vite possible à l'instance d'où chacun tient sa mission, l'autorité apostolique. Il faut faire appel aux évêques qui servent à ça. Notre rôle, nous, c'est de faire tout pour que les communautés aillent bien. Et donc, c'est aussi de mettre les mains dans le cambouis, d'aller rencontrer un conseil pastoral qui est en guerre avec son curé, de rencontrer deux personnes qui ont un différent plus interpersonnel que communautaire. C'est notre rôle premier. La première mission d'un évêque dans le diocèse, c'est le service de l'unité. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à l'évêque. Il ne faut pas se dire « il est trop occupé, il est trop loin ». C'est au contraire notre raison d'être. Après ça, selon la réalité des diocèses, il exercera son rôle soit en direct, soit par l'intermédiaire de ses vicaires généraux, de ses vicaires épiscopaux, selon la façon dont le diocèse est déployé et organisé. Mais c'est très important que la paroisse reste catholique, c'est-à-dire ouverte à plus grande qu'elle. Ça veut dire ça, catholique. Et qu'elle n'hésite pas à mettre, avant que la situation soit complètement bloquée, complètement figée, sous le regard de l'évêque, les difficultés de compréhension et de fonctionnement qu'elle peut connaître.
Et les diacres dans tout ça? Pardon, Kitri, mais parce que vous êtes nombreux à réagir. Enfin, quelque part, quel peut être aussi le rôle de nos frères servants, les diacres, dans cette collab prêtre-laïque?
C'est un rôle très important. Moi, j'ai eu la grâce, dans toutes les paroisses dont j'ai été vicaire ou curé, de pouvoir collaborer avec des diacres permanents. Et j'ai beaucoup apprécié leur rôle latéral. Quand vous regardez comment est organisée la disposition liturgique des acteurs de la messe, vous voyez que le diacre, il est sur le côté. Il est à droite de l'évêque, il est assis à droite de l'évêque, il va être à droite de l'évêque à l'autel. Il y a une forme de latéralité liturgique qui dit quelque chose de très important du rôle du diacre dans la paroisse. Le diacre, il est à la fois très enraciné dans son travail, dans sa vie familiale, souvent dans les problématiques du monde, qui fait que c'est souvent pas lui qui est de manière exclusive immergé dans la petite cuisine paroissiale. Et en même temps, de par son ordination et de par les tâches qu'il exerce, c'est souvent un homme qui est vraiment très profondément articulé à la paroisse. Et moi, j'ai souvent bénéficié de cette latéralité pour trouver chez les diacres permanents de ma paroisse des hommes d'abord de jugement sûr, capables de me dire, ben moi, de ma position, tel conflit que tu rencontres en ce moment, voilà comment je le lis. Des hommes de médiation, capables d'aller de l'un à l'autre, parce que précisément, un peu de côté par rapport aux uns et par rapport aux autres. Et puis, des hommes positionnés pour nous ramener à l'essentiel. Parce que le diacre permanent, sa raison d'être dans l'Église, c'est d'être poil à gratter. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont ordonnés, les diacres permanents. C'est pour être des poils à gratter, pour rappeler à nos communautés qui souvent mobilisent beaucoup d'énergie pour leur bien-être, pour leur confort, fût-ce un confort spirituel, pour que les gens qui fréquentent la paroisse soient bien dans la paroisse. Hein, que cache notre souci de convivialité dans nos paroisses? Souvent bien autre chose qu'un vrai souci d'hospitalité. On pourra y venir si vous voulez. Eh ben, le diacre permanent, il est là pour nous dire, n'oubliez pas les pauvres. N'oubliez pas les marginaux. N'oubliez pas les périphéries de l'Église. Sortons de notre entre-soi. Et donc ce rôle de poil à gratter, il est fondamental et il est bienfaisant. Heureuses les paroisses qui ont la grâce d'avoir un diacre permanent.
Et puis aussi, il y a la place on a parlé de la place du diacre, mais il y a aussi la place des femmes, des laïques, femmes. Vous nous interpellez là-dessus. Quelle place ont-elles dans les conseils épiscopaux? Quelle place peut être le lien avec les prêtres dans les EAP? EAP, c'est équipe d'animation paroissiale. Certains posent la question. C'est plutôt une question pour vous, Kitri, ou pour vous, Isabelle. Ne vous disputez pas le micro. Mais est-ce que... Alors, est-ce qu'être une femme, ça aide ou pas?
Être une femme dans l'Église, à l'époque actuelle, c'est absolument passionnant. On a vraiment une chance, enfin moi je rends grâce d'être dans cette époque-là. En fait, la femme, elle a toujours été valorisée par l'Église. On le voit avec la Vierge Marie qui est quand même modèle de l'Église. La femme, elle est intrinsèquement laïque. Donc ça coule dans ses veines, elle a beaucoup moins de problèmes de positionnement. Même s'il y a plein de femmes qui se posent des questions de leur positionnement. Mais en tout cas, si elle réfléchit à sa vocation profonde, grâce à l'enseignement de l'Église, elle peut redécouvrir justement sa juste place en tant que laïque et en tant que femme. Et le proposer autour d'elle, dans cet esprit de service et de compréhension des besoins du monde. Voilà. Ce que je vois en tout cas d'assez magnifique dans cette collaboration entre les prêtres et puis les femmes dans les instances de gouvernance dans les paroisses, c'est que la femme va apporter beaucoup de choses de l'ordre de l'intuitif. de l'ordre du mystère, de l'ordre des personnes. Elle ramène beaucoup aux personnes naturellement. Donc il est bon qu'elles soient, voilà, qu'elles soient consultées, qu'elles prennent toute leur place et puis qu'elles puissent discerner dans ces instances de gouvernance.
Vous êtes d'accord, Isabelle ?
Oui, je suis d'accord avec Kitri. Et moi, j'avoue en fait que cette question de la place de la femme, on en a beaucoup entendu parler à chaque fois dans les étapes du synode pour la synodalité. Alors, moi, ce n'est pas une question qui vient me heurter, parce qu'en tout cas, dans mon quotidien, là où le Seigneur m'a plantée, je ne vois pas le problème de cette question, il n'y a pas assez de femmes, il y a trop de femmes, etc. Je trouve plutôt, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, où sont les hommes ? Non, mais où sont les hommes dans l'engagement, bien entendu. En fait, c'est une vraie réalité aussi dans le service, en tout cas dans une paroisse. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, en effet, où sont les hommes ? Mais oui, je... C'est bon qu'il y ait... En fait, c'est peut-être que je suis pas féministe. Donc en fait, c'est de remettre à chaque fois cette position de la femme. La femme a une place tellement belle, en effet, dans l'Évangile. Voilà, en fait, c'est avant tout baptiser. Je rentre pas, moi, j'arrive pas à rentrer dans ce débat encore de l'homme et de la femme. Je suis plutôt en tout cas baptiser, tous responsables, tous avoir notre part à jouer et de se sentir. En fait, c'est déjà de se sentir co-responsable de notre Église et donc de dire que notre part, elle est dedans, qu'on a quelque chose à faire, qu'on doit s'y intéresser, qu'on doit vouloir voir ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour œuvrer et finalement pour la mission, pour l'annonce de l'Évangile. Et voilà, donc je sors un peu de votre débat de homme-femme. C'est vrai que moi, je ne suis pas très à l'aise sur ce sujet-là.
Pas un débat, on répond aux questions. Et puis, non, mais bien sûr, mais en fait, cette question, elle est, il faut peut-être revenir encore à ça. Prêtre et laïc, la collab du futur, ça veut quand même dire qu'il y a... Si on se pose cette question, c'est quand même parce qu'il y a moins de prêtres.
Alors moi, je pense que le discours, la baisse des prêtres est une chance pour les laïcs, a fait beaucoup de mal à l'Église. Donc, loin de moi d'adhérer à ce discours de quelque manière que ce soit. C'est un grand malheur pour nos diocèses, la crise des vocations. Et moi, personnellement, j'appelle le diocèse de Carcassonne et Narbonne à entrer, à partir du premier dimanche de l'Avent, dans une grande année de prière pour demander à Dieu les vocations de prêtres, sans lesquelles un diocèse comme le mien est en danger de mort. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté pour moi sur ce point. Pour autant, si cette crise... peut nous remettre devant la vérité de ce qu'est l'Église et nous rappeler que ça n'est pas d'abord pour pallier au manque de prêtres que les laïcs sont appelés à s'investir dans l'Église, aussi douloureuse et grave soit-elle, cette crise aura eu un fruit positif. Parce qu'encore une fois, si la surabondance de prêtres avait pu mettre de côté l'authentique vocation des baptisés, il est bon qu'on la redécouvre aujourd'hui.
C'est intéressant de vous entendre là-dessus parce que vous êtes prêtre diocésain de Versailles. Alors forcément, on pense forcément au diocèse de Versailles, voilà, qui est fourni en prêtres et qui est un diocèse assez, voilà, où on peut s'inspirer en tout cas, mais qui est une toute autre richesse du diocèse de Carcassonne et Narbonne. Le fait d'avoir eu l'expérience d'un grand diocèse et puis aujourd'hui d'un diocèse un peu plus rural, est-ce que vous voyez une même église, vous voyez une même collaboration? Parce que c'est un peu les questions qu'on se pose. Ici, on est à Toulouse, on est dans des lieux extraordinaires sur un week-end magnifique, et puis après, on rentre chez nous aussi dans le rural. Et donc, il y a plusieurs questions dans ma question, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus un décalage et finalement se résigner, se dire on n'y arrivera pas, on n'est pas assez nombreux?
Alors d'abord, un simple petit rappel, le diocèse de Versailles ne se résume pas à la ville de Versailles. La ville de Versailles fait 80 000 habitants, le diocèse de Versailles en fait 1,5 million.
C'est bon pour nous provinciaux de nous dire ça.
Et le diocèse de Versailles, c'est aussi des villes de 20, 30, 40, 60 000 habitants à large majorité musulmane. C'est ça aussi le diocèse de Versailles. C'est la banlieue parisienne comme elle est. Bon. Donc plus qu'un diocèse extrêmement typé, c'est un diocèse extrêmement contrasté, bon, ce diocèse. Au demeurant, dans ce contraste-là, oui, c'est vrai qu'il bénéficie d'une très grande, d'un très grand dynamisme et d'une très grande richesse, qui n'est pas d'abord celle des vocations. Celle des vocations, je dirais, c'est le fruit du dynamisme du diocèse. Le dynamisme du diocèse, il est d'abord dans ses laïcs, dans ses fidèles. Le dynamisme du diocèse, c'est d'abord ses 15 000 scouts. Le dynamisme du diocèse, c'est d'abord les laïcs engagés qui portent la mission. C'est les familles qui ont à cœur de transmettre la foi à leurs enfants. Et c'est de cet investissement de vie chrétienne que débordent des vocations consacrées. Donc, la belle, c'est vrai, la belle et enviable situation des vocations dans le diocèse de Versailles, c'est le symptôme de la vitalité du diocèse, bien davantage que sa source. Bon. Après, est-ce que j'ai vu des différences en arrivant à Carcassonne ? Mais j'ai vu tellement de différences que je ne peux même pas comparer, si vous voulez. C'est une autre planète. C'est pas plus ou moins, c'est autre chose. Tellement c'est autre chose que d'ailleurs j'ai la grâce de même pas avoir la tentation de comparer, vous voyez. Un sage moine, père abbé d'une abbaye bénédictine, m'a dit quand je suis parti à Carcassonne, veillez à ce que Versailles ne devienne pas votre marmite des oignons d'Égypte. J'ai beaucoup aimé l'image. C'est vrai qu'on pourrait, une fois arrivé dans le désert, on sait bien que les Hébreux ont beaucoup récriminé en disant qu'est-ce qu'on fait là par rapport à ce qu'on mangeait bien quand on était en Égypte. Eh bien moi, j'ai eu la grâce de ne pas avoir un jour cette tentation. Tellement c'est différent. Voilà, tellement c'est ailleurs. Après, sur ce point, l'Aude n'est pas unique en France. Hein. Moi, je pense que si vous prenez la province de Toulouse et que vous regardez Auch, que vous regardez Agen, que vous regardez Montauban, que vous regardez Albi, et que vous comparez à Toulouse, vous allez voir des contrastes abyssaux. C'est un vrai défi pour l'avenir, cette situation. C'est un vrai défi de collaboration, pas seulement entre prêtres et laïcs, mais entre nos diocèses. Parce qu'après tout, la carte des diocèses de France, elle ne date que de Napoléon. Hein. C'est pas beaucoup à l'échelle de notre histoire. Moi, mon diocèse, c'est le rassemblement de 5 diocèses. Et puis, si on regarde à d'autres époques, c'était un demi-diocèse conjointement avec celui de Perpignan. Vous voyez, donc les limites et les découpages des diocèses ne sont pas de droit divin. Ils ne sont pas inscrits dans le marbre de l'éternité de l'Église. Et on a toutes ces questions devant nous, hein, dans les années qui viennent. Les diocèses ont fait de gros chantiers de réorganisation de leurs paroisses. Demain s'ouvrira la question de la réorganisation des diocèses. C'est certain. Et entre évêques, on commence à en parler très explicitement. Sur quels critères ? En fonction de quelle collaboration entre nos églises locales ? En fonction de quelle intelligence de regroupement les uns avec les autres ? On a toutes ces questions devant nous. Mais c'est évident que tout va bouger. C'est évident que tout va bouger quand on voit la réalité de nos pauvretés et de la diversité extrême des charismes qui nous sont donnés d'un côté et de l'autre.
Kitri, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On attend le changement. Isabelle, on attend le changement. C'est une question un peu pour toutes les deux. Vous avez dit, et c'est très juste, finalement, la vitalité des diocèses, l'implication des laïcs, ça rayonne et ça suscite des vocations. Ça invite en tout cas à susciter des vocations.
Ouais. C'est sûr qu'il y a un appel à la conversion, donc du rôle du prêtre, de la pleine réception de ce qu'est un laïc et du coup de sa mission. Enfin, de sa spécificité, et puis de la relation prêtre-laïc, c'est une conversion de la relation. Je crois que plus le laïc va recevoir ce qu'il est dans son baptême, plus il va devenir véritablement acteur, co-acteur de la mission de l'Église à sa place. Moi, j'aime beaucoup me dire parfois, quand je suis découragée, que le prototype de la collaboration prêtre-laïc, la collab du futur, c'est la messe. Là, on est vraiment chacun dans sa spécificité. Hein. Et la question parfois que je me pose pour me bouger les fesses, c'est qu'est-ce que j'apporte comme offrande à la messe ? Voilà, qu'est-ce que j'apporte comme souci du monde, comme ami, comme sujet d'intention comme acte, comme péché, qu'est-ce que j'apporte et puis qu'est-ce que ensuite je reçois, tout ce que je peux recevoir.
C'est très important ce que vient de dire Kitri. Je pense que là, on a une clé vraiment, je pense, pour prolonger chacun dans notre prière et dans notre réflexion la discussion de ce matin. Que le foyer, l'archétype d'une belle collaboration prête laïque se trouve à la messe. Parce que c'est vrai que c'est là que culmine notre vocation sacerdotale commune. Personne ne vient jamais seul à la messe. C'est important de se le redire. Même quand on vit la situation difficile d'avoir un conjoint qui n'est pas pratiquant, d'avoir des enfants ou des petits-enfants qui ont tout abandonné en matière de pratique religieuse, on ne vient jamais seul à la messe, on vient avec eux à la messe, parce que tout simplement, nous ne sommes pas des espèces de réalités individuelles isolées les uns des autres. La vie nous situe tous dans des nœuds de la grande trame de relations qu'est la nature humaine. Par mon métier, par ma famille, par mes engagements associatifs, je suis situé à un nœud de relations. Et quand je viens à la messe, je viens avec toutes ces relations et j'offre ces relations à Dieu. Je viens déposer à Dieu, devant Dieu, ces hommes, ces femmes avec qui j'ai passé toute ma semaine. Ils sont là par moi. Et donc, au fond, vous voyez, par le nœud que je suis, s'élève un peu vers Dieu tous les gens avec qui je suis en relation. Et de nœud en nœud, c'est la trame humaine tout entière qui s'élève vers Dieu dans l'offrande que chacun fait de sa vie dans l'Eucharistie. Et le rôle du prêtre, lui, c'est de relier ces offrandes individuelles, de les unir à celles de Jésus pour que ces offrandes aboutissent dans le cœur du Père. Et pour que Dieu, à son tour, puisse se donner à tous ceux qui sont là afin qu'il porte même Dieu dans le monde toute la semaine qui va commencer. Vous voyez, donc, je viens à la messe pour déposer devant Dieu toute la portion d'humanité dans laquelle je suis immergé, et je repars de la messe pour porter Dieu dans cette portion d'humanité. Donc là culmine notre vocation commune sacerdotale. Et s'il n'y avait plus personne, puis il n'y avait plus un baptisé qui venait à la messe, d'un certain côté, le prêtre n'aurait plus rien à offrir. Et s'il n'y avait plus de prêtre pour célébrer la messe, l'offrande des laïcs n'aboutirait plus jusqu'au cœur de Dieu. Donc c'est là aussi qu'on voit à quel point nous avons besoin les uns des autres pour vivre notre vocation sacerdotale, que le pape François à Marseille a formulé d'une très belle manière que j'avais encore jamais entendue. Il a dit « La vocation sacerdotale des chrétiens, c'est de porter au monde le sourire de Dieu et de porter à Dieu les cris du monde ». J'ai beaucoup aimé cette formule qu'il a employée dans le contexte de sa réflexion sur les migrants. Et cet enjeu se noue dans la célébration de l'Eucharistie, qui Tri a tout à fait raison de le souligner.
On arrive à la fin de cette table ronde. Merci pour ce que vous venez de dire, parce que ça nous recentre. Cette collaboration, elle n'a pas fini. Elle est à faire, j'imagine, enfin, naître et renaître chaque fois. Peut-être, Kitri, un ultime conseil. Non,
conseil, non, je ne peux pas.
Pas un conseil, mais alors peut-être pour un mot au moins pour à la fois conforter les laïcs qui s'engagent et qui donnent beaucoup, beaucoup de sens à leur engagement, qui, voilà, parfois, c'est pas toujours simple, les équipes derrière, elles ne sont pas non plus toujours présentes, et puis il y a un peu de friction, un petit mot d'encouragement, alors, plutôt qu'un conseil.
Alors, ou peut-être un rêve.
Alors, un rêve, encore mieux.
Moi, je rêve, en tout cas, que mes enfants aiment la messe et aiment les prêtres. Voilà, aiment la messe et aiment les prêtres. Et puis mes petits-enfants, si j'en ai un jour, etc.
Alors, cette collaboration prêtre laïque, vous y croyez? Vous le démontrez, c'est vrai. Merci beaucoup pour l'organisation de ce, et puis aussi de toute l'équipe qui vous entoure. C'est vrai, c'est une initiative qui naît de la part de laïcs où on a beaucoup parlé et vous l'avez dit du schéma paroissial, mais finalement cette collaboration, elle est bien au-delà et puis elle est bien au-delà des périmètres de nos paroisses. Merci beaucoup pour cette table ronde. On on s'arrête là, mais ce qui n'empêche pas non plus, alors en fonction du programme de chacun, mais de continuer à dialoguer et poser vos questions alors, si vous le souhaitez.
Moi, comme ça, je facilite le travail de Cécile, mais pour rebondir sur ce que disait Kitri tout à l'heure sur la messe, vous lui demandiez si elle avait un conseil. Moi, le conseil, c'est d'aller partager maintenant la messe.
Ah, voilà,
je pense que ça sera
messe.
Notre meilleure collaboration près
de
Relaïque.
C'est l'heure de la messe.
À 11h.
À 11h. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Un grand merci David, un grand merci Monseigneur, Isabelle et Kitri. Donc Isabelle, effectivement, vous a annoncé la messe à 11h. Ensuite, vous avez le temps déjeuner et puis vous avez le village où vous pouvez découvrir plein d'initiatives et puis les ateliers cet après-midi. D'autres tables rondes également, notamment une table ronde à 15h et si on s'aimait enfin entre cathos à la cathédrale. Et puis demain matin, vous retrouvez d'autres tables rondes et tous les temps qui sont inscrits sur votre programme. Je précise aussi que cette table ronde, vous pourrez la réécouter comme tout, en podcast sur radioprésence.fr. Voilà, bonne fin de journée. Merci et encore bravo à vous.